Chapitre 10. Et ceux qui sont arrivés par l'espace repartiront par l'espace. Issus du globe, ils retourneront au globe. Ils verront la nouvelle Jérusalem, la cité de lumière. Ils redeviendront les enfants de l'éternité et ils ensemenceront l'univers. Car en vérité, la fin est le commencement. Et le commencement est la fin. Les temps adviendront où les créatures de l'homme s'acharneront à détruire l'homme. Alors, les Xaxas, les messagers des dieux, les migrateurs célestes, surgiront des lointaines galaxies. Ils couvriront le ciel de l'amas et se poseront sur les glaciers. Et s'ouvriront leurs ventres, et en sortiront les chrysalides géantes, qui se métamorphoseront en gigantesques papillons de feu. S'achèvera pour le peuple élu le temps de l'exil. Commencera le grand voyage vers la nouvelle et ancienne Jérusalem. Chaque Jérusalémine, chaque élu, chaque enfant, chaque femme, chaque homme entrera dans le ventre d'un Xaxas. Et les migrateurs célestes les nourriront de leur chaleur et de leur air, comme des milliers d'années plus tôt, la grande arche de fer nourrit les ancêtres de l'Exode. Et les migrateurs célestes les emporteront dans les cieux, affronteront l'immensité du vide et les déposeront au bout de 40 jours sur le sol béni de la nouvelle Jérusalem. Les élus seront reçus par les anges de lumière, par les anciens et nouveaux prophètes, par les dieux. Ils créeront un Éden, d'où seront bannis le malheur et le péché. Ainsi sera définitivement expiée la très grande faute de leurs ancêtres, les Fraélites, qui défièrent les dieux et s'exterminèrent par les pensées. Ô âmes élues, ô vous qui êtes l'ancien et le nouveau monde, ô vous qui êtes le passé et l'avenir, préparez ces jours merveilleux. Apprenez à entrer dans le ventre du Xaxas. Jeûnez 40 jours par an. Usez de l'air avec parcimonie. Ô vous âmes élues, ô filles et fils du Créateur unique, ô enfants du globe, conservez la pureté de votre race. Ne vous mêlez pas aux Gox, vos faux frères humains. Ils sont maudits pour l'éternité et infectés sont leurs gènes. Sale est la semence des hommes, putride est le ventre des femmes. Le globe les a reniés jusqu'à la fin des temps. Sachez, ô filles de Jérusalem, que celle qui sera couverte par un Gox sera dénudée et enterrée vive dans le glacier. Sachez, ô fils de Jérusalem, que celui qui ensemencera une goquille aura le membre tranché et sera offert en pâture aux oursigres des neiges. Sachez que les Xaxas nourriront les purs et tueront les impurs. Ô Abin, ô vous les gardiens de la parole, veillez sur le peuple élu, sur le peuple divin, comme les chiens de berger veillent farouchement sur les troupeaux. Soyez impitoyables avec les pécheurs et généreux avec les justes. Ô princes de Jérusalem, ô vous les garants des lois et des coutumes, payez de votre personne. Montrez l'exemple. Soyez plus sévères envers vous-même qu'envers vos ouailles. Chérissez la mémoire d'Élian, Labin qui guida nos ancêtres fraélites jusqu'à la Jérusalem de glace et de neige. Pour châtier les humains, les dieux courroucés lancèrent 12 fléaux sur le globe des origines. Il y eut successivement la colère des eaux, la colère de la terre, la colère des cieux, la colère des volcans, la colère du feu, la colère des vents, la colère des neiges, la colère des insectes, la colère des fauves, la colère de l'atome, la colère des barbares et la colère des prêtres. Laban Élian se retira dans le désert de Gob et pria pendant 40 jours. Les dieux entendirent sa supplique et déposèrent à ses pieds une grande arche de fer. Élian passa 40 ans à rassembler les membres éparpillés du peuple élu de Israël, et, lorsque fut pleine l'arche de fer de ses 400 000 passagers, ils affrontèrent l'immensité de l'espace. Le voyage dura 140 années. Nombreux furent ceux qui désespérèrent, qui se révoltèrent, qui renièrent la parole du globe, et ceux-là périrent par le carbone ou se jetèrent dans le vide. Il advint que l'arche se posa sur ce monde de glace et de neige. Laban Élian déposa le globe sacré dans le cœur du glacier et baptisa ce monde Jérusalem. Il advint également que surgirent les Xaxas des lointaines galaxies, qu'ils se posèrent autour de l'arche et que se déployèrent les papillons de feu. Laban Élian et quelques ancêtres prirent place dans le ventre des migrateurs célestes et s'envolèrent vers la Jérusalem de lumière. Lorsque les créatures de l'homme envahiront les mondes humains et défieront les dieux, lorsque sonnera l'heure du juste châtiment pour les goxes impurs, les temps seront venus, ô filles et fils du peuple élu, de rejoindre Laban Élian. Nouvelle Bible de Jérusalem, verset du livre d'Exaxas. Note: Gok, féminin Goki, désigne un étranger, un non-élu, dans l'antique langue de Jérusalem. Dans la bouche des Jérusalémines, le mot Gok prend une connotation péjorative, voire méprisante.
Ce n'était pas la peine de faire tant de mystères au sujet de Naya Fikit, lança Marty en s'engouffrant dans la cabine. Allongé sur sa couchette, Robin de Fart referma la Bible de Jérusalem, un antique livre papier qu'il avait emprunté à un dénommé Sanfrisco, un homme d'équipage d'origine jérusalémine, et leva les yeux vers son complanétaire. Le vieux Syracusain avait d'ailleurs été surpris, et ravi ô combien, que Sanfrisco accédât à sa requête et lui remit le précieux ouvrage. Le peuple élu se refusait catégoriquement à confier ses textes sacrés aux mains des Gox, mais les principes de l'homme d'équipage, un proscrit, un prince banni, avaient probablement perdu de leur rigidité au contact des autres peuples des mondes recensés.
Que voulez-vous dire, Marty?
Que vous n'êtes pas le seul à vouloir rejoindre la fille de votre ancien ami. Je viens de faire la connaissance d'un petit utigénien qui cherche à se rendre sur Terra Mater, car c'est là qu'elle s'est réfugiée, n'est-ce pas?
Robin de Fart se leva et vint se coller contre le hublot. Le vaisseau était en phase de propulsion Schlar, et les lueurs des lointaines étoiles fusaient d'un point à l'autre de l'espace comme des bulles lumière soufflées par des rafales de vent.
« Je ne comprends pas pourquoi vous avez refusé de me confesser votre prétendu secret. Avez-vous si peu confiance en moi ?»
Robin de Fart appréciait de plus en plus la compagnie de Marty, ce fils que le hasard semblait avoir envoyé pour réchauffer l'hiver de sa vie. Mais quelque chose d'indéfinissable l'empêchait de se laisser emporter par le flot de tendresse qui coulait en lui. Et il n'était pas encore parvenu à déterminer si cette résistance était due à la sécheresse persistante de son propre cœur ou à la personnalité dérangeante du jeune Kervaleur. Un sombre pressentiment l'avait étreint les jours qui avaient suivi l'anéantissement de la libre cité de l'espace. Son intuition lui avait chuchoté que l'explosion subite des vaisseaux et des ponts étanches de la ville rebelle avait un lien avec le retard de Marty au moment de l'embarquement, avec la poussière noire qui maculait son uniforme d'écarlate. Pourquoi donc ne s'était-il pas changé? Avec sa monstrueuse réaction d'indifférence devant la catastrophe. Le vieux Syracusain, que ses noires pensées avaient empêché de dormir pendant plus de 2 semaines, avait tenté d'interroger discrètement son complanétaire, mais il n'avait récolté que réponses évasives, haussements d'épaules ou airs agacés. Il ne mettait pas en doute la sincérité de son compagnon de route, mais son équilibre psychologique. Les lueurs de démence qui traversaient de temps à autre les yeux noirs de Marty
indiquait qu'il était en proie à des pulsions incontrôlables. Non, Robin de Fart n'avait pas confiance en son jeune concitoyen, et il en souffrait.
« J'aurais fini par vous le dire, » murmura-t-il d'un ton las. « Je voulais d'abord apprendre à vous connaître. »
« Jacques, c'est le nom du petit utigénien, s'est montré moins soupçonneux que vous. Je crois plutôt que vous m'avez caché cette information pour m'obliger à rester près de vous. Je ne me suis pas enfui de chez mes parents pour continuer d'être traité en enfant, sieur de Fart. » Les mots de Marty se fichaient comme des flèches empoisonnées dans la poitrine du vieux Syracusain, dont les doigts se crispaient sur la couverture de cuir usé de la Bible de Jérusalem. Le ronronnement sourd des moteurs du papiduc incisait le velours sombre du vide interstellaire. Le mal de l'espace, provoqué par l'effet Schlar, gangrenait peu à peu Robin de Fart, et il restait encore 15 jours de voyage jusqu'à Franzia.
« Que comptez-vous faire ?»
Marty s'assit sur sa banquette et joua distraitement avec les boutons de la veste Skoï qu'il avait achetée. 10 des 30 dernières unités standards de Robin, Marty ayant oublié de prendre avec lui les 2000 unités que lui avaient valu ses prestations sexuelles, dans une des boutiques du bord.
« Rejoindre Naya Fikit et Sri Lumpa sur Terra Mater, » répondit-il. « C'est également votre intention, non ?»
et devenir un guerrier du silence.
Comment comptez-vous effectuer le voyage ?
Jacques m'a parlé de réseaux clandestins de passeurs sur Franzia.
Avec quel argent paierez-vous ? Les transferts pirates coûtent de véritables fortunes, sans compter que les réseaux clandestins ne disposent que de vieilles machines, aux rayons d'action de moins de 10 années-lumière.
Qu'en savez-vous ? Robin de Fart retourna s'asseoir sur sa couchette et ouvrit la Bible de Jérusalem. Ses yeux errèrent machinalement sur le texte imprimé.
Au cours de mes 15 années d'errance, il m'est souvent arrivé de recourir à leur service. Ce sont des rascatas, des individus sans scrupules, des trafiquants de la pire espèce.
Nous nous débrouillerons pour les convaincre de nous transférer gracieusement.
Autant essayer de convaincre un Croisien d'aimer son prochain.
Marty dévisagea froidement Robin de Fart.
« Je m'aperçois que l'âge rend amer et pessimiste, » lâcha-t-il entre ses lèvres pincées. « On peut également appeler ça de la sagesse, » rétorqua le vieux Syracusain.
« Je déduis de vos paroles que nous ne pourrons pas compter sur votre appui.
J'ai beau m'approcher à grands pas de la mort, je n'en prends pas pour autant des dispositions suicidaires. »
Mais alors, comment espérez-vous gagner Terra Mater ? Robin de Fart s'abîma dans la lecture d'un passage du livre d'Exaxas. La couverture de sa couchette était jonchée de vidéos holo et de livres-lumière.
« Je ne sais pas encore. Je fais confiance au destin. »
Le destin joue parfois de drôles de tours aux humains.
« Je ne vous connaissais pas ce talent de philosophe. »
La phrase n'est pas de moi, mais de Jacques, le petit Anjorien, enfin de son père, de son pas, comme il le dit lui-même. Robin de Fart brandit la Bible de Jérusalem.
La solution se trouve peut-être dans ce livre. J'ai la nette impression que San Frisco ne me l'a pas prêté par hasard.
Le second, je n'aime pas ce type. Toujours fourré avec Jacques, qu'il surnomme le prince des hyènes. Il n'a pas seulement une drôle de façon de parler. Son regard me flanque la trouille. Un sourire narquois s'esquissa sur les lèvres du vieux Syracusain.
« Où donc avez-vous égaré les préceptes de l'éducation courtisane, Marty ? Le langage de San Frisco est imprégné de poésie. Le vôtre marque une tendance certaine à se vulgariser. »
Une ombre glissa sur le visage du jeune Kervaleur.
« Je suis mort au monde courtisan, mort à mes parents, mort à mes amis.
De quelle solution parliez-vous ?
L'Exaxas de la religion du globe. Les migrateurs célestes qu'attendent les Gersalémines depuis 8000 ans. J'ai discuté avec San Frisco. Il est persuadé que les Exaxas atterriront sur Jérusalem dans 3 semaines standard. Et alors, certains versets de la Bible prétendent que l'on peut s'installer à l'intérieur de ces animaux fabuleux. Écoutez ce passage. Chaque Gersalémine entrera dans le ventre du Xaxas, et le migrateur céleste le nourrira de sa chaleur et de son air, l'emportera dans les cieux, affrontera l'immensité du vide et le déposera au bout de 40 jours sur le sol béni de la nouvelle Jérusalem. Reste à savoir ce que la Bible entend par la nouvelle Jérusalem. Issu du globe, ils retourneront au globe. L'ancien globe, c'est sans conteste Terra Mater, la terre des origines, d'où sont partis les Fraélites il y a de cela plus de 80 siècles. Mais quel est le globe de destination? Le Nouveau Monde? San Frisco soutient qu'il y a une grande part de symbolisme dans les textes sacrés. C'est ce qui lui a valu les foudres des Abines et son bannissement de Jérusalem. Le gâtisme vous guette, sieur de Farte, coupa sèchement Marty. Vous tenez entre les mains un recueil religieux, un ramassis de croyances vieilles de 8000 ans. Comment pouvez-vous accorder du crédit à ces foutaises ?
Autant que vous en accordez au mythe des guerriers du silence, mon jeune ami. Certaines gens réagissent exactement comme vous venez de le faire, lorsque l'on évoque les noms de Nayafikit et Srilumpa. De toute manière, Jérusalem n'est qu'à 2 jours de vaisseau de Franzia, et cela ne nous coûte pas grand-chose d'aller...
Parlez pour vous ? Marty se leva d'un bond et se dirigea à grands pas vers la porte de la cabine. Les semelles de ses chaussures de soie, 3 unités standard la paire, claquèrent sur le plancher métallique. Il posa la main sur la poignée et se retourna. Ses yeux lançaient des éclats flamboyants.
« Jacques et moi, nous n'avons pas l'intention d'aller perdre notre temps sur Jérusalem. Nous solliciterons les réseaux de passeurs de Néamarsil, que cela vous plaise ou non. »
Le virus de l'ethnosociologie vous rongera jusqu'à la fin de vos jours, sieur de Farte. Vous prétendez agir dans l'intérêt général, mais votre interprétation des versets de la Bible, outre qu'elle est délirante, ne sert que vos propres intérêts. Si nous décidions de vous accompagner, vous feriez d'une pierre 2 coups, vous satisferiez votre passion de l'étude et vous conserveriez près de vous ceux que vous destinez à égayer vos vieux jours.
Une maxime syracusaine prétend que la solitude est l'ennemi mortel du vieillard. Et si j'en juge par vos tentatives pathétiques de vous entourer d'amis, je m'aperçois que c'est vrai. Quant à San Frisco, c'est un Gersalémine, un homme dont on ne peut prévoir les réactions. Qui vous dit qu'il ne cherche pas à vous piéger? Peut-être vous ouvrira-t-il la gorge dès que vous aurez posé le pied sur Franzia.
Marty, Marty, pensa Robin de Farte. Tu ne sais donc pas reconnaître les princes des scélérats. Tu n'as donc rien appris à la cour impériale de Vénitia.
Grand Dieu, et dans quel but?
Ils vous croient riches.
Les gens qui déboursent 120 000 unités pour une traversée spatiale ne sont pas légions. Vous et votre prétendue sagesse, vous avez payé le triple des autres passagers.
Il avait prononcé ces mots comme une sentence. Il s'engagea dans la coursive et claqua violemment la porte sur son passage. Robin de Farte reposa la Bible de Jérusalem sur la tablette de nuit, s'allongea sur la couchette et se laissa dériver sur une mer de pensées moroses. Avec la brutalité et l'impudence de la jeunesse, Marty avait profondément enfoncé le fer dans ses plaies. Robin avait toujours été seul, depuis son enfance de fils unique sur Syracusa, jusqu'à son errance infinie sur les mondes recensés. Seul par choix, parce que, fort du contrat que lui avait proposé une compagnie de production holo, il avait opté pour un métier d'ethnosociologue qui exigeait d'incessants déplacements. Seul par obligation, parce que l'église du Kreutz l'avait classé à l'index des grands hérétiques et qu'il était devenu un pestiféré, un clandestin, un exilé. Un châtrat des étoiles. Seul enfin parce que la friche avait recouvert son cœur et qu'il n'avait jamais pu ou su exploiter son gisement d'amour. Il avait accumulé des connaissances, observé, étudié, décortiqué de multiples peuples des mondes recensés, mais il avait oublié de vivre et il s'abîmait lentement dans le vide absurde dont il s'était lui-même entouré.
Son savoir, ce savoir dont il s'était montré si fier, ne servait à personne. Contrairement aux livres Lumière et aux vidéos Holo, ces précieux témoins que se transmettaient les générations, il se refermerait définitivement avec la mort. Il était parfaitement conscient que son désir de rencontrer Naya Fikit, la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était âgée de 3 ans, et Sri Alexou parlait d'elle comme de la première merveille de l'univers, était à la fois son ultime voyage et une tentative désespérée d'abandonner un infime sillage dans la longue histoire des humanités. Il se secoua, refoula énergiquement le désespoir qui le rongeait. Il lui fallait trouver un moyen de dissuader Marty et le petit Utigénien de mettre à exécution leur projet insensé. Les passeurs des réseaux clandestins se livraient au trafic de chair humaine, approvisionnaient en marchands d'hommes, enfants et adolescents principalement, les nobles, bourgeois et prélats des mondes du centre. Un nom vint immédiatement à l'esprit de Robin, San Frisco. Avec l'aide du second, qui bien que Gersalemine semblait éprouver de la sympathie pour les Gox, il pourrait peut-être empêcher son jeune et fougueux complanétaire de commettre l'irréparable. Le Papiduc avait émergé de son bon chlar devant la grande ceinture d'astéroïdes des mondes néo-européens. La carène du grand vaisseau avait chassé des poussières célestes et des débris enflammés avaient crissé sur le hublot de la cabine de Jek. Mais s'ils avaient fait sursauter le petit Angeorien, ils n'avaient pas eu l'air de provoquer la moindre rayure sur la vitre à quadruple épaisseur. Les boucliers thermiques se déployaient dans un sifflement aigu et prolongé. La planète Franzia, première des 7 étapes du périple néo-européen du Papiduc, grossissait rapidement dans le champ de vision de Jek. De puissants tourbillons d'énergie se formaient à la surface de la stratosphère dont le halo supérieur se parait de splendides teintes vertes et cuivrées. En retrait, les disques étincelants de 2 soleils enflammaient la plaine céleste. Plus loin encore se devinaient les seins des étoiles de Néo-Europe, bruissant de lumière. L'atterrissage sur Franzia n'était plus qu'une question de minutes. Les rugissements des moteurs d'inversion traversaient les cloisons et le plancher. Les boucliers externes, portés à incandescence par l'échauffement atmosphérique, jetaient des éclats rougeoyants. Jek se rendit pour la 30e fois près de la porte et en tourna la poignée. Pas davantage que lors de ses précédentes tentatives, elle ne consentit à s'ouvrir. Il n'avait rien remarqué, rien entendu, mais quelques heures plus tôt, au moment où il avait voulu gagner le restaurant des hommes d'équipage, il s'était rendu compte qu'on l'avait enfermé dans sa cabine. Il avait eu beau tambouriner, appeler, tempêter, personne ne s'était manifesté. Il s'était alors remémoré les paroles de San Frisco. « Il est plus difficile de sortir du cœur du viduc que d'une boîte en fer. » Le maître du Papiduc n'avait visiblement pas l'intention de le laisser repartir. Avait-il surpris les conversations entre Jek et Marty? Avait-il eu vent de leur projet de contacter les passeurs clandestins de Néamarsil? En dépit du luxe de précaution dont s'étaient entourés le petit Angeorien et le jeune Syracusain, cette éventualité était à prendre en considération. De nombreux mouchards audio étaient disséminés dans les cloisons et plafonds des coursives et des cabines, et le viduc avait des yeux et des oreilles partout. Jek en était arrivé à douter de la sincérité de San Frisco. Le second n'avait-il pas faim de le prendre en amitié pour mieux recueillir ses confidences et les rapporter à son maître? Ne s'était-il pas livré, tout au long de ses 6 mois de voyage, à un odieux simulacre d'affection? Qu'il était difficile à un enfant de 8 ans, 8 ans et demi, peut-être 9, avec les incessants décalages planétaires, Jek ne savait plus très bien où il en était de son temps de vie, autrefois rythmé par les anniversaires, les fêtes et les saisons utigéniennes. De composer avec les arrière-pensées et les intérêts des adultes. La veille, lors du repas rituel dans la salle à manger de sa cabine, le viduc avait paru d'humeur sombre. Il n'avait pratiquement pas ouvert la bouche, ni pour parler, ni pour manger. Il avait posé son menton sur ses mains croisées et, de longues minutes durant, avait enveloppé Jek d'un regard intense, douloureux. Sur le coup, le petit Angeorien n'y avait guère prêté attention,
trop absorbé qu'il était à dévorer tout ce qui lui tombait sous les dents.
Il avait présumé que ce mutisme maussade se rapportait à la disparition de la libre cité de l'espace, un important débouché commercial en moins. Mais à présent, devant cette porte obstinément close, il prenait conscience de la véritable signification de ce regard. Le viduc avait presque convaincu Jack de renoncer à ses rêves, d'opter pour l'existence mouvementée des trafiquants de l'espace, et l'intrusion de Marty de Kervaler avait tout remis en cause. Pendant 6 mois, l'intime conviction du petit Tanjorien avait reposé sur la seule parole d'Arthrarak, et au fur et à mesure que s'étaient égrenés les jours, elle s'était étiolée avec le souvenir du vieux Carentin. Au cœur de l'immensité stellaire, il s'était peu à peu identifié aux limites du vaisseau, de ce cocon métallique qui, à défaut de chaleur, avait le mérite de lui procurer un sentiment de sécurité. Le papyduc était devenu sa maison de l'espace, son terrain de jeu, un endroit clos, rassurant, où il avait pris ses habitudes, où il s'était créé des repères. Le piège subtil du viduc avait parfaitement fonctionné. Hormis la cérémonie du repas quotidien, il n'avait imposé aucune règle à Jack. Il l'avait laissé explorer le vaisseau en toute liberté, se familiariser avec les hommes d'équipage et les rituels de la navigation stellaire. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, Jack s'était fait à l'idée que ce monde en valait bien un autre, que le viduc valait bien les fantômes de Pa et Manhattskin, que les incessants voyages entre les mondes Skoï et l'amas de Néorope valaient bien les longues marches dans les rues d'Anjor, que le statut de pirate de l'espace valait bien celui de guerrier du silence, que les femmes des mondes Skoï, nues et belles dans la pénombre des coursives, valaient bien la légendaire Naya Fikit. Le tableau aurait été presque parfait si San Frisco, son autre père de fortune, ne lui avait pas fait comprendre qu'il comptait déserter à la prochaine escale. Les temps sont venus où ma tête et mon cœur étouffent à l'intérieur de ce monde en mouvement. Un autre voyage m'attend, prince des hyènes. Il ne tient qu'à toi de m'accompagner. Malgré les supplications de Jack, San Frisco avait refusé d'en dire davantage.
Le viduc ne te laissera jamais partir, avait lancé à bout d'arguments le petit Tanjorien.
Un Gok ne peut s'opposer à la volonté des dieux du globe. Ma tête craint que le périple du prince des hyènes ne s'achève dans le vaisseau, et mon cœur n'a pas envie de chanter.
Le second aurait probablement eu raison sur ce point si Jack n'avait pas rencontré Marty de Kervaler. Cela faisait plusieurs jours qu'il avait remarqué la présence du jeune Syracusain au restaurant commun, où il venait prendre ses repas, flanqué d'un vieillard au visage parcheminé, aux cheveux argentés. Il avait d'abord hésité à l'importuner, car la finesse extraordinaire de ses traits et la noblesse de son maintien avaient quelque chose d'intimidant. Il l'avait épié à la dérobée, s'efforçant d'imiter discrètement ses gestes racés, en particulier la façon qu'il avait de manier ses couverts, de porter la nourriture à sa bouche et de s'essuyer les lèvres avec le coin d'une serviette jetable. Il avait profité d'un jour où le jeune Syracusain était seul pour l'aborder. Comme il était en panne de sujet de conversation, il s'était assis en face de lui et l'avait provoqué du regard.
« Que me voulez-vous ? » avait demandé le Syracusain sans lever les yeux de son assiette.
Jack, surpris par ce vouvoiement emphatique, n'avait rien trouvé de mieux à bredouiller qu'un piteux
« Rien, rien. »«
Allons, cela fait plusieurs jours que vous m'observez en cachette et que vous essayez de copier mes attitudes. Assez mal, d'ailleurs. » La facilité avec laquelle son interlocuteur l'avait percé à jour avait mortifié Jack, emporté par une vague de honte.
« Eh bien, que me voulez-vous ? »
En dépit de cette entrée en matière réfrigérante, le Syracusain et l'Utigénien avaient fini par lier connaissance. Jack avait cherché à se mettre en valeur en racontant le comblement et le gazage du ghetto Carentin, l'histoire des hyènes. En un coup de parole magique, les prédatrices géantes du désert nucléaire étaient passées de quelques centaines à des centaines de milliers. Et l'émeute des bêta-zoomorphes de Glatinbat.
Des millions de mutants se sont entretués pour que je devienne leur prince, leur prophète.
Marty de Kervaler l'avait d'abord écouté patiemment,
les yeux traversés de lueurs railleuses et les lèvres effleurées d'un sourire narquois. Mais lorsque Jacques, voulant à tout prix susciter l'intérêt de son interlocuteur, avait ouvert le chapitre de Naya Fikit et de Sri Lumpa, « Un jour je serai un guerrier du silence et je voyagerai sur mes pensées. » Toute trace d'ironie avait déserté le visage du Syracusain. Il avait tout à coup paru captivé, avait posé d'innombrables questions auxquelles Jacques, enfin pris au sérieux, avait répondu de son mieux, puis il avait déclaré qu'il souhaitait également contacter Naya Fikit et devenir un guerrier du silence. « En vous parlant, mon cher Jacques, je me rends compte que cette rencontre a constitué depuis toujours le but ultime de ma vie. Et tu viens d'où ?»
Dans l'enthousiasme, le tutoiement avait jailli spontanément. Jacques avait d'ailleurs toujours pensé que le vouvoiement était réservé aux grandes personnes à l'allure sévère, aux missionnaires creusiens en particulier. Marty avait donc à son tour relaté les événements qui l'avaient conduit à l'intérieur du papiduc, exception faite bien entendu des cérémonies rituelles du machama. S'il avait décrit avec force détail la dure condition d'écarlate, l'âpreté du travail de nettoyage dans les tubes d'aération, il avait brièvement évoqué sa deuxième activité, les visites secrètes et rémunérées à certaines femmes de la libre cité de l'espace, une occupation dont la finalité avait échappé à Jacques. Il s'était revu à plusieurs reprises, avait échafaudé un projet commun. À deux, ils auraient plus de chances de réussir. Ils s'uniraient pour surmonter les obstacles, pour affronter les passeurs des réseaux clandestins. « Mon nom fera pencher la balance », avait affirmé Marty. « Ils n'oseront pas refuser un service aux descendants d'une des 10 plus illustres familles syracusaines. » La fière assurance du Syracusain avait réconforté Jacques. Le destin s'était débrouillé pour le remettre sur le chemin de son rêve. Il était sorti de sa léthargie et le papiduc lui était apparu sous son vrai jour. Il ne s'était pas évadé de la maison familiale d'Anjor et de l'école de propagande sacrée des Creusiens pour se claquemurer jusqu'à la fin de son existence dans une prison spatiale, dans une boîte en fer bruyante, fétide, étouffante. La voix mourante d'Arthrarak avait de nouveau résonné clairement en lui.
« Vis, Jack, et deviens un guerrier du silence. »
Il s'était bien gardé de faire part de sa résolution au viduc. Il avait eu le redoutable privilège d'assister à quelques-unes de ses colères, dirigées contre des hommes d'équipage coupables de négligence, et il ne tenait pas à être pris dans la tourmente. Jusqu'au bout, il avait cru que le maître du papiduc ne se douterait de rien, mais la porte condamnée de sa cabine lui montrait qu'il s'était lourdement trompé. Le viduc le considérait comme sa chose, comme son bien, et la cage qu'il lui avait destinée était sans nul doute cadenassée et férocement gardée.
Il est plus difficile de sortir de son cœur que d'une boîte en fer.
Saisi d'un violent accès de rage, Jacques frappa du pied le panneau inférieur de la porte métallique. Puis le découragement le gagna et, la tête basse, il retourna se poser devant le hublot, dont la vitre à quadruple épaisseur interdisait toute tentative d'évasion. Entre ses cils emperlés de larmes, il aperçut la tache verte de la forêt tropicale franzienne, bordée d'un côté par le liséré ocre d'un désert, de l'autre par la frange bleue d'un océan au-dessus duquel paraissaient des nuages blancs et dentelés. Le sol se rapprochait à une vitesse hallucinante, comme si le lourd vaisseau, emporté par son élan, n'avait plus la capacité de réduire son allure. Les hurlements des moteurs d'inversion retentissaient comme autant de sonnettes d'alarme, et les traînées rouges-orangées qui zébraient les parties visibles du fuselage donnaient l'impression qu'il était sur le point de s'embraser, de se disloquer. Le hublot offrait un champ de vision très limité, mais Jack, en se haussant sur la pointe des pieds, distingua au beau milieu de l'immensité verte une figure géométrique composée de points et de rubans gris. Les formes, les contours, les volumes se précisèrent. Les points étaient des constructions et les rubans des routes. Apparemment, la cité de Neamarsil n'était pas très étendue, beaucoup moins en tout cas qu'Anjor, la capitale du Djen. C'était la première fois que Jacques découvrait une ville désert. La libre cité de l'espace ne comptait pas,
car elle n'était pas posée sur une planète et les vaisseaux suspendus n'étaient pas de vraies constructions. Et il avait du mal à en évaluer les dimensions. Vues d'en haut, les rues ressemblaient aux nervures d'une feuille et les immeubles à des carapaces d'insectes gris, anguleux et figés. Une formidable secousse ébranla le vaisseau et souleva Jack du plancher. Il perdit l'équilibre, roula sur lui-même et heurta de plein fouet les montants métalliques transversaux de la couchette. Ce n'est que lorsqu'il se fut relevé, à demi étourdi, les côtes endolories, qu'il avisa les consignes de sécurité affichées sur un écran inséré dans le plafond. « Veuillez rester allongé sur votre couchette et boucler vos sangles anti-trépidation. » Il n'en tint aucun compte et retourna se placer devant le hublot. Le rugissement des réacteurs d'inversion se tut et fit place au gémissement plaintif des moteurs auxiliaires d'atterrissage. Le papiduc planait maintenant dans les airs comme un gigantesque rapace. Il survolait l'astroport de Néamarsil inondé de lumière dorée, la tour de contrôle, une aiguille de verre au sommet hérissé de paraboles, les bâtiments administratifs criblés de baies vitrées, les immenses hangars recouverts de tôles ondulées, les airs planes sur lesquels s'affairait une multitude de minuscules silhouettes jaunes. Entre les effluves de chaleur, Jack distingua, alignés devant des entrepôts, les formes noires et allongées d'autres vaisseaux, beaucoup moins volumineux que le papiduc. Contrairement à l'air plane de Glatinbat, qui avait été conçu d'un seul tenant et dont les bâtisseurs avaient probablement pris en compte les mensurations hors normes du vaisseau du viduc Papironda, l'astroport de Néamarsil se composait d'une vingtaine de sections d'à peine 50 mètres de long, séparées les unes des autres par des bandes de gazon et des allées de dalles blanches. Avec ses 500 mètres de la poupe à la proue, le papiduc réquisitionnait donc plusieurs pistes, 10 au minimum. Son ombre, elle ténébreuse et tirée par les 4 soleils dispersés, submergeait progressivement les bâtiments administratifs. Les silhouettes jaunes et les véhicules d'entretien, des chenilleurs de couleur rouge, refluèrent vers les hangars. Lorsqu'ils eurent entièrement dégagé la zone d'atterrissage, le grand vaisseau se posa sur ses 20 pieds arqués avec une légèreté et une douceur étonnantes pour un appareil de son gabarit. Le gémissement des moteurs auxiliaires décrut progressivement et un silence paisible retomba sur l'astroport. Les sas de la carène coulissèrent et vomirent de hautes passerelles dont les socles souples vinrent épouser le béton fendillé des airs planes. Jack entrevit des mouvements confus autour du vaisseau, des chenilleurs de refroidissement, reconnaissables à leur réservoir sphérique et qui les faisaient étrangement ressembler à des animaux à bosse, convergeaient vers les carters inférieurs des moteurs. Des ouvriers, protégés par des combinaisons et des masques d'optalium, avaient déroulé des lances d'arrosage et en braquaient les extrémités sur les endroits du fuselage qui avaient le plus souffert du réchauffement atmosphérique. La chaleur intense qui se dégageait des matériaux risquait de faire éclater la surface déjà écaillée des pistes, et la première tâche des employés consistait à asperger la coque d'une neige refroidissante, un mélange de carbone et d'azote à très basse température. Une heure plus tard, lorsque la température fut redescendue de plusieurs dizaines de degrés, des hommes vêtus d'uniformes noirs, des interliciers impériaux, surgirent des bâtiments administratifs et vinrent s'aligner au pied des passerelles. Jack les vit installer des instruments, des boîtes blanches posées sur des trépieds, qui ressuscitèrent dans son esprit le souvenir de l'identificateur cellulaire bricolé par Pahatskin au-dessus de la porte de la maison familiale d'Anjor. Si, comme c'était probable, ces appareils étaient bien des identificateurs cellulaires, ils étaient reliés à un mémodisque central, sur lequel étaient archivées les données adéniques de tous les raskatas de langue empire, hérétiques, opposants politiques ou criminels de droit commun.
« Le nôtre, on lui a juste donné à manger nos cellules familiales !»
disait Pa en éclatant de rire. Jack prit peur pour son ami Marty. Ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines, mais il plaisait au petit Anjorien de penser qu'il était devenu l'ami intime d'un fils de grande famille syracusaine, d'un courtisan qui avait eu l'honneur d'approcher Menati Imperator et son épouse, la belle dame Sibrite,
Si le mémodisque central de l'interlisse contenait les coordonnées cellulaires du jeune Syracusain, il n'aurait aucune chance de passer au travers du contrôle. Il se saisirait de lui, le réexpédierait dardard sur Syracusa, où il serait traduit devant l'inquisition mentale et condamné au supplice de la croix de feu à combustion lente. Puisque Jacques devait se résigner à remettre à plus tard son projet, quelque part au fond de lui, il était bien obligé d'admettre que ce contretemps l'arrangeait, le soulageait. Il ne lui restait plus qu'à vivre l'aventure par procuration, par l'entremise de Marty de Kervaleur. Les émigrants des monts de Skoï débarquèrent les premiers. Eux se trouvaient confrontés à d'autres difficultés. S'ils n'avaient pas grand-chose à craindre du contrôle cellulaire de l'interlisse, ils avaient tout à redouter des douaniers et fonctionnaires franziens. La planète Franzia était loin d'atteindre le seuil critique de démographie. Elle recensait 2 milliards d'habitants auxquels s'additionnaient les 300 millions de visiteurs temporaires, serviteurs de langue empire, touristes ou hommes d'affaires. Mais les conditions d'obtention du visa permanent se durcissaient chaque année. Et ces pauvres airs, qui avaient placé toutes leurs économies dans ce voyage de l'espoir, les monts de Skoï étaient, quant à eux, surpeuplés et pollués, tremblaient maintenant d'être impitoyablement refoulés. Et ceux qui débarquaient à Néamarsil, les autres, ceux qui continuaient, étaient consignés à bord pendant toute la durée de l'escale, à savoir 5 jours, n'avaient pas les moyens de s'offrir un éventuel voyage vers d'autres destinations, Alman, Spen, Nuneenland, et les autorités franziennes, supervisées par un cardinal-gouverneur creutzien, pouvaient fort bien les entasser dans des camps de concentration où ils seraient astreints à effectuer les travaux les plus sales, les plus dégradants et les plus dangereux. Jacques avait apprécié la compagnie des Skoï. Outre la beauté des femmes, il avait aimé la chaleur de leur accueil, leur sens du partage, leur gaieté, leurs chants, leurs rires, leurs disputes. Maintenant qu'il les regardait s'avancer timidement vers le bâtiment douanier, les femmes serrant contre leur poitrine leurs nourrissons, des enfants nés au cours du voyage, des enfants de l'espace, les hommes droits et fiers portant sur leur tête d'énormes ballots, les enfants gambadant, sautillant, heureux de fouler un sol véritable, de respirer un air véritable, de sentir sur leur peau les caresses d'une brise véritable et les rayons de soleil véritables. Il espérait que leur rêve ne se transformerait pas en cauchemar, que le paradis promis ne se changerait pas en enfer. Il tenta de repérer la silhouette de Marty au milieu de l'interminable flot humain qui s'écoulait de la blessure béante du vaisseau. Mais il ne parvenait pas à distinguer les traits des passagers, et de plus, le Syracusain pouvait fort bien avoir emprunté l'une des 2 autres passerelles. 3 heures durant, le fleuve humain ne se tarit pas, comme si le réservoir du Papiduc était inépuisable. C'était par milliers que les émigrants Skoï se pressaient autour du bâtiment douanier, et cet exode massif n'était pas fait pour encourager la bienveillance des autorités franziennes à leur égard. Jacques, fatigué, tenta une dernière fois d'ouvrir la porte de sa cabine, puis, en désespoir de cause, retourna s'allonger sur sa couchette. Le visage blême d'Artrarak, étendu parmi les fans de Plumeng, prisonnier à jamais des langues de béton liquide, s'imprima sur l'écran de sa mémoire. Le vieux Carentin n'avait pas prévu que le viduc Papironda, l'homme qu'il avait sauvé de la mort en aspirant et recrachant le pus de ses blessures, claustrerait son envoyé, le petit surfaceur d'Anjor en qui il avait placé tous ses espoirs jusqu'à la nuit des temps.
« Le destin adore jouer des farces aux humains !»
murmurait le spectre moqueur de Paatskin. Un cliquetis réveilla Jacques couvert de sueur. Il ouvrit les yeux. Une colonne de lumière rouille tombait du hublot, découpait une flaque au bord indécis sur le plancher de la cabine plongée dans un clair-obscur diffus. Il entendit des phrases hachées et confuses crachées par les haut-parleurs de l'astroport, les ronronnements discrets de chenilleurs, des éclats de rire et de voix, et la rumeur sourde qui provenait du cœur de la cité. Il s'aperçut soudain que la porte de sa cabine était entr'ouverte. Des raies de lumière artificielle crue jaillissaient de la coursive éclairée et projetaient des éclats jaunes sur les cloisons.
Pendant quelques minutes, il se demanda ce qu'il devait faire. Le viduc Papyronda avait-il changé d'avis au dernier moment? C'était peu probable. Il n'était pas homme à revenir sur ses décisions. Le petit Anjorien eut soudain très peur de franchir le seuil de cette porte qu'il avait tant souhaité voir s'entrebâiller. Quelqu'un avait ouvert sa cage, cette boîte en fer aux limites de laquelle il avait fini par s'accoutumer. Comme un oiseau dont la trop longue captivité avait atrophié les ailes, il n'osait pas croire qu'on l'avait rendu à la liberté. Puis il se dit que la chance qui s'offrait à lui ne se représenterait peut-être plus. Que lui importait l'identité de celui qui avait déverrouillé la serrure à code? Même si le monde extérieur lui paraissait hostile, il lui fallait l'affronter, comme il avait affronté les hyènes du désert nucléaire du Djen. Une envie pressante l'étreignit de savoir ce qu'il était advenu de Marty, ce grand frère que le destin lui avait donné. Il repoussa la couverture, se leva et se dirigea à pas prudents vers la porte. Il s'immobilisa contre la cloison et tenta de détecter d'éventuels bruits de pas ou de voix dans la coursive. Mais seul un subtil clapotis troublait le silence sépulcral qui régnait sur le vaisseau. Une senteur doucereuse, entêtante, flânait dans l'air confiné. Le cœur battant, il s'aventura dans la coursive. Il faillit trébucher sur les corps allongés et inertes de deux hommes d'équipage. Un horrible sourire s'épanouissait à la base de leur cou. Quelqu'un, sans doute le même individu qui lui avait ouvert la porte, leur avait tranché la gorge. Ils baignaient dans une mare de sang qui s'étalait sur toute la largeur de la coursive. Malgré sa répulsion, Jack n'avait pas d'autre choix que de la traverser. Le chuintement de ses semelles sur le sang visqueux le fit frissonner de la tête aux pieds. Comme il avait exploré le papiduc dans ses moindres secrets, il lui fut facile de se repérer et de se diriger vers les soutes inférieures de débarquement. Plutôt que d'emprunter l'itinéraire habituel de coursives et de plateformes, il opta pour les toboggans de secours, des tunnels aux parois incurvées, lisses et glissantes, dont il avait fait son terrain de jeu favori pendant le voyage. Il ne lui fallut pas plus de 5 minutes pour atterrir, les 4 fers en l'air, sur le plancher rugueux d'une soute de débarquement. Par chance, elle était déserte. Était-ce vraiment de la chance? Son mystérieux libérateur avait bien choisi son moment. Les hommes d'équipage avaient l'habitude de se rassembler dans la salle du restaurant commun pour y fêter les atterrissages. Ces victoires sans cesse redoublées sur le vide interstellaire. Aucun équipage ne s'avisait de transgresser cette tradition. Jack s'approcha du sas rond, inondé de lumière rouge. La passerelle n'avait pas encore été remontée et le tapis automatique de descente continuait de glisser sur ses roulements mécaniques en émettant un grincement sinistre. Les premières caresses de la brise tiède lui léchèrent le visage et il crut qu'il allait défaillir de plaisir. Il aperçut 30 mètres en contrebas des ouvriers en combinaison jaune qui étalaient des couches de béton liquide sur les fissures de l'air plane. Deux soleils s'abîmaient derrière les toits des bâtiments et le ciel se couvrait de traînées mordorées. Jack hésita un instant. Il craignait la réaction des employés de l'astroport. Il risquait de héler les interliciers lorsqu'il verrait un enfant de 8 ou 9 ans sortir seul du papiduc et traverser l'espace dégagé de l'air plane jusqu'au bâtiment administratif. Il raffermit sa détermination. Il ne s'était pas posé ce genre de questions devant les hyènes tachetées. Il traversa le palier extérieur de la passerelle d'un pas résolu et posa les semelles de ses chaussures sur les ventouses du tapis de descente. Personne ne lui prêta attention lorsqu'il sauta sur le sol. Un sol. Enfin autre chose qu'un plancher métallique reposant sur le néant. Ni les ouvriers, ni les rares interliciers qui rôdaient aux alentours du bâtiment principal, ni les douaniers postés derrière de longs comptoirs de fouille, équipés de sondes à résonance magnétique et de mouchards à rayonnement. Ils ne semblèrent même pas s'apercevoir de sa présence lorsqu'il franchit les premiers postes. Leurs regards, des regards pourtant soupçonneux, le transpercèrent comme s'il n'était qu'une image holographique, un être d'air et de lumière. De même, les émigrants Skoï, parqués comme des animaux dans des enclos délimités par des barrières,
ne le reconnurent pas. Les nourrissons pleuraient dans les bras des femmes à qui on avait interdit par annonce de donner le sein en public et même en privé, selon le code creusien des tolérances familiales qui soutenait que l'allaitement maternel développait la sensualité, la perversité chez les enfants et, par voie de conséquence, chez les adultes. Les hommes plaidaient désespérément leur cause devant les douaniers sur les faces hâlées desquelles fleurissaient des sourires vénéneux. Le traitement auquel les fonctionnaires franziens soumettaient les émigrants révolta le petit Andjorien. Il se présenta devant les préposés du deuxième barrage, vêtu d'uniforme vert kaki et coiffé de bicornes noires, armé de brûlantes trailles au canon court. Aucun d'eux ne l'interpella. Il se faufila tranquillement entre les comptoirs, les cabines individuelles de fouille, les chariots de bagages, et déboucha sur la salle de transit de l'astroport d'une largeur de 2 kilomètres. Ça et là, des odeurs de friture flânaient entre les zones alvéolaires des compagnies marchandes, les boutiques de souvenirs et les bars ambulants. Il chercha des yeux Marty, ou même son vieux compagnon, mais il était pratiquement impossible de repérer qui que ce fût dans une telle cohue. Bousculé, tiré à hue et à dia par les tumultueuses vagues humaines, Jack se dirigea à tout hasard vers ce qui lui semblait être la sortie. D'énormes vantaux de verre ouverts sur une place noire de monde, d'où s'envolaient des personnaires, des taxiboules ou des ovalibus de transport en commun. Au moment où il s'apprêtait à franchir le seuil, une voix le cloua sur place. « Hé toi, le gamin, où est-ce que tu vas ?» Saisi, il se retourna. Il se décontracta lorsqu'il reconnut la haute silhouette de Marty de Kervaleur. Le jeune Syracusain s'extirpa de la foule et s'avança vers lui tout sourire. « Je t'attendais, tu en as mis du temps. »«
On m'avait enfermé dans ma cabine, » bredouilla Jack, mal remis de sa frayeur.
« Je sais, Robin m'en a prévenu et m'a prié de revenir t'attendre à l'astroport à la tombée du crépuscule. Comme tu peux le constater, prince des hyènes, c'est ce que j'ai fait. »«
Robin ?»«
Le sieur de Fart, le Syracusain avec lequel je voyage, ou devrais-je dire avec lequel je voyageais. » Nos routes se sont provisoirement séparées, il y a 2 heures de cela. Le second, San Frisco, l'a invité sur Jérusalem, et Robin de Fart, en bon ethno-sociologue, s'est montré incapable de résister à l'attrait de la découverte. Il m'a dit qu'il nous rejoindrait sur Terra Mater.
Il savait que j'étais enfermé?
Il savait également que tu serais délivré. J'ignore qui l'a informé, mais il ne s'est pas trompé. Le principal est que tu aies pu t'évader. Personne ne t'a fouillé? Tu n'as pas été contraint de te soumettre à l'identification cellulaire?
Jack secoua lentement la tête. Et toi?
L'interliste ne semble pas encore posséder mes coordonnées cellulaires, répondit Marty. Ni, curieusement, celle de Robin de Fart, pourtant classée à l'index creudien depuis plus de 15 ans. J'avoue que j'ai eu peur lorsque je me suis présenté dans le faisceau des ondes d'identification. Les douaniers franziens ne nous ont créé aucune difficulté. Ils sont trop affairés à juguler les migrations Skoï.
San Frisco a déserté,
murmura tristement Jack après un instant de silence.
Il ressentait la fuite du second comme une trahison.
Ne te soucie pas de lui, dit Marty. C'est un Gersalémine et aucun goc ne peut deviner ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. J'ai mis à profit ton incarcération provisoire pour obtenir quelques renseignements sur les passeurs des réseaux clandestins. J'ai rendez-vous avec un rabatteur, un Chélam comme il les surnomme ici. Allons-y. Marty se dirigea vers les vantaux de verre, mais Jack ne bougea pas.
Qu'est-ce qui te prend, prince des hyènes?
J'ai faim.
Marty fouilla dans les poches de sa veste, en extirpa quelques pièces jaunes, s'approcha d'un bar ambulant et acheta des beignets de pain et de viande ainsi que des bouteilles aux couleurs acidulées.
« Cette fois, il ne me reste vraiment rien, »
soupira le Syracusain. Muni de ce précieux butin, ils sortirent de la place bondée et parvinrent à se frayer un chemin jusqu'à un square bordé d'arbres à feuilles translucides et baigné de lumière rouge. Là, ils s'installèrent sur un banc de pierre et se restaurèrent. Ils ne tardèrent pas à être encerclés par une nuée pépiante d'oiseaux lyres au plumage chamarré.
Les rabatteurs ne devraient pas tarder, dit Marty en jetant une boulette de pain aux oiseaux lyres.
Les gracieux volatiles se disputèrent cette maigre pitance avec une férocité inouïe. Des duvets colorés, arrachés à coups de bec et d'ergot, tournoyèrent dans les airs. Jack aurait bien voulu leur céder une partie de son repas, mais il était tellement affamé qu'il ne se sentait pas d'humeur partageuse. Il aurait facilement dévoré le double de la portion, pourtant copieuse, que lui avait donnée Marty. Respirer l'air tiède et parfumé d'une planète. Goûter les effleurements des soleils couchants sur la peau. Se prélasser sous un arbre. Écouter les trilles mélodieux des oiseaux. Contempler les nuages empourprés. Admirer les constructions environnantes, de pourtant peu gracieux bâtiments aux peintures écaillées et aux fenêtres rectangulaires. Observer les passants. Tout cela le remplissait d'extase. Il était envahi d'une délicieuse sensation de renaissance. Il prenait tout à coup conscience que son long voyage dans le vide informe, dans l'incréé, n'avait été qu'une parenthèse dans sa vie, une éclipse assimilable à une petite mort. Tout lui plaisait sur Franzia. Les autochtones aux peaux mates gorgées de soleil, les touristes reconnaissables à leurs vêtements excentriques et à leur teint blafard, les cris joyeux des marchands ambulants, les étals de fruits et de légumes dont les couleurs vives contrastaient avec le souvenir qu'il gardait de la grisaille du marché de Racamel et de la tristesse des employés des fermes communautaires du Djen. Ça et là apparaissaient des signes de changement, des indices qui annonçaient l'inexorable déclin de la liberté et de l'insouciance franzienne. Des missionnaires creusiens en col en corps et surplis safran et des skate protecteurs ou inquisiteurs déambulaient sur la place et dans les allées du square. Au-dessus de la ligne brisée des toits se profilaient les tourelles effilées des gigantesques temples. Au loin, entre les branches basses des arbres, on distinguait la forme caractéristique des croix de feu dressées sur le trottoir d'une large avenue. Jake remarqua également que de nombreux badauds, indigènes ou touristes, hommes ou femmes, avaient adopté la mode du col en corps et des mèches tressées. Les mailles du filet de l'église du Kreutz se resserraient au-dessus de la planète Franzia. Jake établit tout à coup la relation entre les Kreutziens et les guerriers du silence. Les uns emprisonnaient la vie, la lumière et l'air, préparaient l'avènement du vide, de l'incréé. Les autres luttaient pour le déploiement des couleurs, des sons, des formes. Les uns étaient les messagers du néant, des semeurs d'obscurité, des prophètes de l'effacement. Les autres étaient les dépositaires de la chaleur, les chantres de la création. Il lui sembla percevoir un murmure attirant au plus profond de lui, un son subtil qui vibrait dans la nef de son temple intérieur. Un chant qui n'offensait pas le silence, mais qui était l'expression du silence. Bouleversé, ému jusqu'aux larmes, il eut l'impression de parcourir une route aérienne et brillante qui le menait à l'essence de son être. Il n'était plus Jet Atkin, le petit Andjorien, fils unique de Marek et Juliette Atkin, mais un Jack de lumière, un pont jeté entre le passé et le futur. Une arche qui renfermait l'univers entier, une âme reliée à l'éternité. Ni jeune, ni vieux, ni petit, ni grand, ni sage, ni ignorant, mais tout cela à la fois. Il pensa, avec un frisson rétrospectif, qu'il n'aurait jamais connu ce moment de grâce s'il avait choisi de rester dans la boîte en fer du viduc Papyronda. Il voit une reconnaissance éperdue à l'inconnu qui avait égorgé les deux gardes et avait ouvert la porte de sa cabine. Celui-là, l'envoyé de la Providence, n'avait pas hésité à défier l'autorité du viduc et à plonger les mains dans le sang pour lui permettre d'accomplir sa destinée. Il eut également envie d'embrasser Marty, ce grand frère que le hasard avait placé au moment opportun sur sa route. C'est d'ailleurs ce qu'il fit. Il s'essuya les lèvres d'un revers de manche et déposa un baiser furtif sur la joue du Syracusain. Au regard sévère que celui-ci lui décocha, Jake comprit que le contrôle mental du fils d'une grande famille syracusaine s'accommodait mal avec les débordements affectifs.
La réaction de Marty ne l'empêcha pas de finir tranquillement son repas, gavé de bonheur, savourant chaque bouchée de son beignet huileux comme s'il s'agissait de la nourriture la plus exquise de l'univers, se délectant de chaque gorgée de la mère boisson franzienne comme s'il dégustait un élixir divin, inhalant chaque bouffée de l'air franzien, un air pourtant imprégné de l'odeur des carburants des personnaires et taxiboules, comme si c'était l'air le plus pur qu'il lui avait été donné de respirer. Jack et Marty suivaient le Chelam dans la rue sinueuse, populeuse, éclairée par une nuée de bulles lumière flottante. Le rabatteur du réseau, un homme au crâne rasé, luisant, marchait à une allure soutenue et, de temps à autre, le petit Andjorien était obligé de courir pour ne pas se laisser distancer. Le Chelam les avait abordés à la tombée de la nuit. Il n'était vêtu que d'un pantalon court et d'un gilet sans manches qui ne dissimulait pas grand-chose de ses muscles saillants, parsemés de tatouages et de cicatrices. Son regard fuyant accentuait son air fourbe, et le long couteau passé dans sa ceinture tendait le tissu le long de sa cuisse.
« Un transfert, messieurs !»
avait-il chuchoté en passant devant le banc de pierre. La nuée d'oiseaux lyres s'était dispersée, et Marty avait hoché la tête.
« Suive-moi !»
D'emblée, Jack avait eu peur de cet homme. Il était resté figé sur le banc. Mais Marty lui avait saisi le poignet et l'avait contraint à se lever. Ils avaient d'abord remonté une large avenue bordée de quais aériens où se pressaient les usagers des transports en commun, hérissés de croix de feu à l'intérieur desquelles des hommes et des femmes suppliciés attendaient avec impatience le passage de la mort. Jack avait remarqué que le Chelam crachait discrètement à chaque fois qu'il passait devant un de ces affreux mouroirs. Selon Marty, il y avait toutes sortes de Chelam à Neamarsil. Hormis les rabatteurs des réseaux clandestins de transfert cellulaire, on trouvait également des traqueurs de touristes qui travaillaient pour le compte des sociétés cynégétiques, des correspondants des compagnies marchandes qui se chargeaient de prospecter les passagers pour les navettes interstellaires, des revendeurs des cercles de trafiquants qui proposaient du tabac rouge des Montskoy, du vin franzien additionné de plantes hallucinogènes, ou des marchands d'hommes sélectionnés. Un début de nausée était monté en Marty lorsqu'il avait abordé ce dernier point. Les glorieux membres du Machama s'étaient approvisionnés par l'intermédiaire de ce genre de réseau. Et les visions des jeunes filles sacrifiées, ensanglantées, dépecées, le harcelaient sans répit. Le métier de Chelam semblait être l'un des plus répandus sur Franzia. Depuis qu'il s'était engagé dans la ruelle, nombreux étaient ceux qui venaient solliciter Marty.
« Monsieur, monsieur, billets pour un monde de lama, tabac rouge, vin. Spectacle spécial, femmes, fillettes, garçons, esclaves. »
De vrais sangsues. Le rabatteur du réseau était obligé de les invectiver en vieux franzien, de les secouer parfois pour qu'ils se résolvent à lâcher son client. Le Chelam, Marty et Jack s'enfoncèrent dans le cœur de la vieille ville, caractérisée par des venelles étriquées, des boutiques de toutes sortes et des maisons aux tourelles ventrues étayées par des piliers de bois. Les premières étoiles du noyau central de l'amas de Néorope faisaient leur apparition au-dessus des toits d'écorce peinte. Jack ne pouvait se défaire de la sensation d'être suivi. Il jetait régulièrement des coups d'œil par-dessus son épaule et croyait voir des ombres furtives se glisser entre les piliers des tourelles et les groupes de badauds. Il mourait d'envie de rebrousser chemin, mais un sursaut d'orgueil d'une part, la volonté farouche de ne plus dévier de son but d'autre part, lui interdirent de se laisser déborder par sa frayeur. Ils croisèrent des patrouilles d'interliciers, des missionnaires creudiens, des scaïtes inquisiteurs. Ils aperçurent même les masques blancs et rigides de mercenaires de Prithive. Mais ces rencontres n'occasionnèrent aucun autre dommage que de légers pincements d'entrailles et des sueurs froides. Le Chelam bifurqua vers une traboule déserte, malodorante et sombre. Jack perçut les vibrations basses d'une musique assourdissante et rythmée. Elle provenait d'une fenêtre entr'ouverte, se diffusait dans le passage étriqué, battait comme un cœur qui ébranlait les ténèbres. Il n'avait jamais entendu de musique de ce genre sur Ugen, où, avant l'intrusion des Creudiens,
les populations locales dansaient au son d'instruments à vent et à cordes traditionnelles. Violines, flûtes à rouet, jaduja à deux cordes, orgue d'Anjor, ou assistaient recueillis au récital nostalgique des chanteurs de Lutigénir. Autrefois, lorsque Paatskin captait encore les canaux ASF sur son vieux récepteur, il s'abîmait dans l'écoute extatique de l'harmonie à plein phonique syracusaine, cette suite de sons incohérents et prolongés qui, prétendait-il, élevait l'âme. Jack et Mahatskin, alliés de circonstances, ne craignaient pas de braver son courroux en affirmant bien haut et bien fort que cette musique ne réussissait qu'à leur casser les oreilles.
« Par là !» dit le Shelam.
Ils s'engouffrèrent dans un couloir éclairé par des bulles lumière moribondes, à l'extrémité duquel se dressait une porte métallique blindée. Le rabatteur sortit un clavier de la poche de son pantalon et ses doigts coururent sur les minuscules touches holographiques. Une sensation tenace envahit Marty d'avoir déjà vécu cette scène. Un claquement bref retentit et la porte coulissa silencieusement sur ses gonds. Ils gravirent un escalier tournant, accédèrent à un palier où les attendaient deux hommes aux mines sinistres et, comme le Shelam, au crâne rasé. Ils fouillèrent rapidement Jack et Marty. La peau du Syracusain frémit au contact de leurs mains moites. Ces effleurements odieux réveillèrent en lui le souvenir des caresses enfiévrées d'Anit Pasitpahir dans le caveau de l'arc de Bella Syracusa. Puis l'image d'Emar Singal se substitua à celle de la jeune femme, et il devina quelle motivation avait poussé le gros technicien à se débarrasser de lui. Les deux cerbères introduisirent le Shelam et ses deux clients dans une petite pièce ronde, meublée d'un bureau de bois et de quelques fauteuils à suspension air, et refermèrent la porte. La lumière tamisée que diffusaient deux appliques jouait sur les motifs argentés et spiraux d'un tapis d'orange, révélait les innombrables accros des tentures murales, les crevasses des poutres apparentes et les écailles du plafond.
« La gibier est de plus en plus jeune !»
croassa une voix éraillée. Jack observa la silhouette qui venait de se redresser derrière le bureau. Il crut d'abord avoir affaire à une fillette. De longs cheveux noirs et ondulés encadraient la tête minuscule et s'écoulaient sur les épaules étriquées. Puis il distingua les fines ridules sur le front, sur les tempes, aux commissures des lèvres, les seins qui tendaient la robe de soie écrue, les lignes de col noires qui saupoudraient les longs cils, et il s'aperçut que le passeur clandestin était un modèle réduit de femme. Elle n'était pas vraiment laide, pas vraiment vieille, mais ratatinée, desséchée, comme rongée de l'intérieur. Elle sortit une cigarette de tabac rouge d'une boîte noire et l'alluma avec une longue allumette de cèdre qu'elle frotta sur le bois du bureau. Ses ongles laqués de blanc, d'une longueur impressionnante, ressemblaient à des griffes. Un épais nuage de fumée ocre s'échappa de sa bouche, de ses narines, et la pièce fut instantanément plongée dans un irrespirable brouillard. Jack fut sidéré de voir un tel volume de fumée sortir d'un si petit corps.
« Ils n'ont pas d'argent, Yemata, mais j'ai pensé que je devais quand même te les amener, » dit le Shelam.
« Ils sont mignons, ces agneaux, »
murmura la femme avec un petit sourire en coin.
« Je parie que le plus grand est Syracusain. »
« De Vénitia, » intervint Marty en s'avançant vers le bureau. « Vous connaissez Syracusa ?» La femme libéra un rire rauque qui se transforma rapidement en une toux caverneuse.
« Je sais moi-même vénitienne, mon joli. »«
De quelle famille ?»«
Mars, les miens n'ont pas supporté que je me livre à certaines expériences. »
La microstasie ? Elle tira plusieurs bouffées de sa cigarette et le dévisagea en silence.
« Étant donné mon apparence physique, ce n'était pas très difficile à deviner. Cela fait plus de 30 années que je n'ai pas absorbé de solution microstatique, mais je n'ai pas pour autant recouvré ma taille d'origine. Est-ce qu'on en trouve toujours sur Syracusa ?»
L'église du Kreutz a classé les microstases à l'index, au même titre que les accélérateurs cérébraux.
« Dommage, C'était la seule façon de contacter les dieux et les démons des mondes occultes.
Jake s'assit sur un fauteuil. Il ne saisissait pas grand-chose de cette conversation. Il comprenait seulement que Marty et cette étrange femme venaient du même monde et cela suffisait à le rassurer.
Avez-vous gardé des pouvoirs de vos voyages microstatiques ?
Elle rit pour la deuxième fois.
Ah, mon joli, comment crois-tu qu'un petit bout de femme puisse contrôler un réseau de passeurs franciens ? Je bénéficie encore du soutien de quelques fidèles alliés des autres mondes. Ben, inutile de ressusciter le passé. Il est mort. Parlons affaires. Où veux-tu te rendre ?
Sur Terra Mater, est-ce possible ?
Rien n'est impossible à Yemata, déclara le Shelam. Le réseau dispose de relais jusqu'aux confins de l'univers.
Les yeux noirs de la femme se posèrent sur Jack, qui eut l'impression d'être perforé par deux pics de glace. Une énergie terrifiante se dégageait de ce visage rabougri, de ses iris sombres, de ses lèvres craquelées, de ses petites mains aux veines saillantes.
Avec quel argent comptes-tu me payer ? Deux transferts, ça va chercher dans les 300 000 unités standards.
Votre Shelam vous l'a dit, nous n'avons pas d'argent. Mais je peux vous signer une reconnaissance de dette ?
Un bout de papier ? Une empreinte cellulaire ? Tout ça n'a pas plus de valeur qu'une merde de chatra.
Je suis un Kervaleur, madame, protesta Marty. J'engage mon nom, la réputation de ma famille.
Ne me prends pas pour une idiote, mon joli. Tu es un exilé, comme moi. Peut-être même un rascata. Le sens de l'honneur des grandes familles syracusaines ne va pas jusqu'à régler les dettes des proscrits.
Inquiet, Jake commença à se recroqueviller sur son fauteuil.
Mais comme tu m'es sympathique, reprit la femme, je veux bien te proposer un arrangement. Le petit paiera pour ton transfert.
Que voulez-vous dire ? Un funeste pressentiment envahit Jake.
La demande pédophile est de plus en plus importante. Certains clients sont prêts à payer 300 000 unités pour un garçon de moins de 10 ans. Je rends grâce à l'église chrétienne. Plus elle pose d'interdits et plus mes affaires prospèrent. Avant, les amateurs de chair fraîche venaient eux-mêmes faire leur marché. Mais maintenant, avec la mainmise des Grodiens sur les déromates et l'évolution technique de la surveillance cellulaire, ils préfèrent recourir à des services efficaces, discrets et, bien entendu, hors de prix. Ce garçon m'intéresse, Kervaleur. Le prix que j'en tirerai couvrira les frais de ton transfert. Mais rassure-toi, il ne souffrira pas. Nous lui injecterons un produit anesthésiant avant son départ. Grand à savoir le sort que lui réservera le client.
Les microstases vous ont également réduit le cerveau, dame de Mars, cracha Marty. Il le pensait sincèrement, mais l'autre, le démon, choisit ce moment pour se manifester. Une voix s'éleva à l'intérieur du jeune Kervaleur, lui enjoignit d'accepter la proposition de Yemata. L'autre était pressé de gagner Terra Mater. Une tâche urgente l'attendait là-bas. Le sort du petit Utigénien l'indifférait. Puisque Jack est le prix à payer du transfert clandestin, vends-le.
Pourquoi hésiter ? Tu as déjà tué 300 000 humains de la libre cité de l'espace.
300 000 humains, mon Dieu ! Un premier réflexe entraîna Marty à se rebeller, mais une douleur fulgurante lui déchira le cerveau. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Il se laissa choir de tout son poids sur un fauteuil dont la suspension air exhala un gémissement étouffé. Jack, épouvanté, voit le visage de son grand frère de hasard se métamorphoser en un masque grimaçant et hideux. Un doute affreux s'insinue dans l'esprit du petit Andjorien. La fumée estompe les formes, le bureau, les fauteuils, les poutres, les traits de la femme et du Shelam. L'entrevue tourne au cauchemar.
« Tu as trop forcé sur le vin franzien, mon joli
!» ricane Yemata. L'autre a maintenant pris possession de Marty, l'a amputé de son humanité
à occulter sa mémoire, à trancher les liens affectifs qui l'unissaient à Jack.
Qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole, madame ?
Des intonations métalliques, impersonnelles, sous-tendent la voix du Syracusain.
Rien, répond Yemata. Mais nous pouvons sceller notre pacte, mon joli. Il y a très longtemps que je n'ai pas tenu un complanétaire dans mes bras. Les autres, les Franziens, les touristes, sont des rustres à la peau aussi dure que l'écorce des arbres. Ta façon de me donner du madame m'excite.
Pourquoi pas, se dit l'autre. Chez les humains, les actes de chair créent de la gratitude et par extension des obligations morales. S'il sait lui donner du plaisir, elle sera disposée à le transférer sur terre à ma terre.
Au moment où il ouvre la bouche pour entériner le marché, un hurlement crucifie le silence. Un bruit de cavalcade retentit dans le couloir.